With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Au revoir est un podcast consacré au deuil périnatal. Le deuil périnatal, c'est le fait de perdre son bébé durant la grossesse ou quelque temps après sa naissance. Par conséquent, les épisodes de ce programme abordent des questions sensibles et douloureuses. Avec mes invités, nous parlerons notamment de fausses couches, d'interruption médicale de grossesse, de mort in utero ou encore de disparition d'un enfant de quelques jours ou quelques semaines. Assurez-vous de pouvoir écouter les épisodes dans de bonnes conditions. Et surtout n'oubliez pas, dans le mot deuil, il y a certes le D de décès, mais il y a aussi le E d'espoir ou le I qu'on retrouve dans le mot vie. Je vous souhaite une bonne écoute.
À ce moment-là, je me disais déjà, je voulais l'enterrer quelque part et on m'a proposé de le mettre par exemple sous une plante ou un arbre. Sauf que chez moi, tout mourait. Non, je vais pas pouvoir faire ça parce que si en plus l'arbre meurt, je vais trop mal le vivre. Donc j'ai été dans un endroit que j'aime beaucoup avec ma doula. Donc le lendemain, on est allé ensemble dans cet endroit, on s'est promené, on a parlé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, cet endroit-là, j'aime bien. Il y a de l'eau, il y a la terre, il y a des arbres. J'aime bien venir ici, les enfants y jouent sur les arbres et tout, c'est chouette. Et on l'a enterré là, du coup. Et puis des fois, c'est pas forcément par exemple, là, pour mon avortement, c'était plutôt des caillots, en fait, que j'ai récupérés. Mais je les ai récupérés symboliquement pour les rendre à la terre, parce que pour moi, c'est une façon de matérialiser, en effet, la fin de la vie, en fait, et de donner du sens à la fin de la vie. Ça me permet de me rappeler que la fin de la vie, c'est une renaissance pour... d'une autre façon, ça permet aux arbres autour d'en profiter, à la terre d'en profiter, parce que le sang et les règles, c'est très riche. Donc, j'ai vraiment amené cette intention de nourrir la terre ainsi. Symboliquement, c'est de se relier à ça, à cette fertilité en fait qui existe dans à travers notre sang. C'est hyper fort quoi pour un corps de femme. C'est vraiment chouette.
Quand on est une femme, on a ce lien très particulier au sang. Le sang menstruel qui rythme nos cycles dès la puberté. On s'habitue, ou non en fait, à le voir arriver tous les mois. On cohabite avec ce flux sanguin, plus ou moins abondant, pendant quelques jours. Ce sang menstruel, on le déteste ou on le chérit. Ça dépend des femmes, ça dépend des moments de la vie en fait. On peut être heureuse de le voir arriver, on peut être soulagée, on peut le redouter, on peut être indifférente. On peut détester l'état dans lequel on est quelques jours avant qu'il arrive ou au moment où il est là. On peut même ressentir une certaine plénitude. Ça dépend des moments. Quoi qu'il en soit, ce sang fait partie de nous. Et quand on parle de grossesse, quand on se lance dans ce parcours qui est celui de la maternité, il y a encore une histoire de sang. Le sang qu'on transmet, oui, mais pas seulement. Au début de la grossesse, il est l'un des premiers signes qui nous met en alerte, parce que le sang ne vient pas. Et du fait de son absence, il annonce un retard des règles et va nous inciter à faire un test. Et s'il est positif ce test, eh bien pendant 9 mois, si tout va bien, on va vivre sans le sang. C'est ce qu'on appelle l'aménorrhée, on n'a plus de règles. Ce sang, il réapparaît après l'accouchement, lorsque l'utérus se vide, après la naissance du bébé et la délivrance du placenta. Ce ne sont pas des règles à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des loci. Et puis pour quelques semaines, quelques mois, le sang redisparaît à nouveau et revient dans nos vies. C'est le retour de couche. Et le cycle menstruel se remet en place petit à petit, tous les 25, 28, 32 jours selon les femmes, un peu plus, un peu moins. Et à un moment, tout ça s'arrête. C'est la ménopause, la fin du cycle de la fertilité. Mais dans cette liste, j'ai oublié quelque chose. Le sang, quand on parle de la grossesse, c'est aussi le sang de la grossesse qui s'arrête. Le sang qui est le signal que des examens médicaux doivent être vite réalisés. La vie a quitté l'embryon qui portait en lui toutes les potentialités de l'enfant que l'on s'était imaginé. Ou c'est le sang qui coule après cette échographie de contrôle lorsqu'on s'aperçoit que c'est fini. Le couperet tombe. Plus de croissance, plus de rythme cardiaque. Ce sang, c'est donc le signe de la grossesse qui s'interrompt. C'est le sang qui met un point d'arrêt aux projections. Et dans le parcours d'une femme, il ne faut pas non plus oublier le sang qui disparaît, le sang de ses règles qui ne viennent pas et qui se remet à couler au moment d'une IVG. Cette interruption volontaire de grossesse, elle peut concerner la femme qui ne veut pas être mère ou celle qui, déjà mère, ne souhaite pas avoir d'autres enfants. Et pour ça, pas de jugement. Encore une fois, c'est une grossesse qui s'arrête, qu'on interrompt. Qu'on interrompt de manière volontaire, certes, mais ça ne signifie pas que c'est simple ou qu'on y a recours de gaieté de cœur, pour reprendre les mots de Simone Veil, première femme ministre de la Santé, qui a permis la légalisation de l'avortement, désormais appelé IVG, en 1974, en France. Alors vous voyez, le sang, il rythme la vie des femmes. Avant qu'elles tombent enceintes, au moment de leur grossesse, ou lorsque ces grossesses prennent fin. Et pour certaines, ces grossesses, elles se terminent beaucoup trop tôt. Au revoir podcast, épisode 14. Aurélie, levez le voile sur les grossesses arrêtées. Dans cet épisode, la voix que vous allez entendre, c'est celle d'Aurélie. Aurélie, c'est d'abord un sourire et beaucoup beaucoup de bonne humeur. Aurélie, elle vit dans le sud-ouest de la France avec sa tribu masculine, composée de son mari et de ses trois garçons. Mais en devenant doula, elle a décidé d'œuvrer avant tout pour les femmes. Si vous ne voyez pas ce que c'est une doula, eh bien c'est une personne qui propose un accompagnement non médical de la grossesse. C'est après ses deux premières grossesses et après avoir accouché une première fois à domicile qu'Aurélie a décidé de se former à cette mission en parallèle de son emploi d'enseignante. Quelque temps après sa formation, Aurélie tombe enceinte pour la troisième fois. C'est sa première grossesse depuis qu'elle est devenue doula et dès le début, elle tisse un lien particulier avec son bébé.
Ne vous projetez pas pendant le premier trimestre, évitez de vous projeter. Oui, il fallait pas se projeter. Je sais pas, je vois pas comment font les gens qui peuvent dire ça, parce que c'est tellement, en effet, tu vois le test positif et moi j'étais, c'était parti dans ma tête quoi. Et puis vraiment, moi j'ai eu deux premières grossesses en plus qui se sont vraiment très très bien passées, donc il y avait pas de raison. Une famille dans laquelle on ne me parle pas, on me dit pas qu'il y a eu des fausses couches ou autre. Donc, pour ma mère étant, elle a eu 5 enfants, donc je me dis bah, c'est facile, tout va bien. Je me sens vraiment pas concernée. Et puis, comme entre temps, en plus je me suis formée au métier de doula, j'avais envie de pleinement investir cette grossesse pour la vivre de la plus belle des façons. Donc, je communiquais déjà énormément avec ce petit être qui grandissait en moi. J'avais l'impression vraiment que il y avait une telle évidence, en fait. Vraiment. Et ça a été le plus beau début de grossesse que j'ai eu, au final. Un début de grossesse idyllique à mes yeux. Vraiment, je me sens enceinte, je me sens bien. J'ai pas beaucoup de symptômes, mais j'en ai pas eu beaucoup non plus pour mes premiers. Rien d'affolant. Si ce n'est ce décalage, de croissance de l'embryon entre ce que le médecin me dit et moi, le délai dont je pensais être enceinte, qui est assez conséquent quand même. Parce que je crois que j'avais calculé du coup 3 semaines d'écart facile et 2 semaines et demie, 3 semaines, c'est ça. Et là par contre, je me dis je pense que c'est vraiment lui qui se trompe quoi, que voilà. Vraiment moi j'avais l'impression d'avoir une communication d'avoir un lien hyper particulier avec ce bébé quoi. Et puis on avait déjà trouvé un prénom pour une fille, enfin, il y avait plein de choses qui étaient qui s'était déjà mis en place, comme on en parlait assez on parle assez facilement avec mon mari de plein de choses, et puis on s'est dit au bout d'un moment, on va peut-être expliquer à nos enfants que on parle de ça, donc mes grands étaient au courant, puis parce que je suis convaincue que tous les enfants sentent les choses, les perçoivent, donc je préfère mettre des mots dessus plutôt que de le cacher, donc on avait parlé de la grossesse, on avait expliqué, un début de grossesse, qui a l'air de bien partir, tout va bien.
Toutefois, des saignements apparaissent au bout de quelques semaines. Malgré tout, Aurélie est vite rassurée après avoir fait une échographie de contrôle.
J'ai commencé à saigner et le truc un peu traître, c'est qu'on a fait une écho où le cœur battait encore. Donc après, moi, je suis partie chez mes parents pendant le week-end, j'ai annoncé ma grossesse à tout le monde. Et en fait, la semaine suivante, les saignements ont persisté, ont augmenté. Et en fait, le mardi, j'ai fait une écho et c'était fini. En fait, l'embryon ne grandissait plus. On détectait plus de rythme cardiaque. Donc voilà. Déjà, j'avais un gros stress qui montait depuis le matin parce que je perdais vraiment de plus en plus de sang. Je travaillais en collège le matin et après je suis allée à l'hôpital et je priais dans ma tête, je disais au bébé mais tiens bon s'il te plaît. Enfin, je me rappelle de ça vraiment, ce truc de supplier la vie quoi, de pas m'arracher cette grossesse quoi, vraiment. Et quand la médecin m'a annoncé en fait, j'ai compris que ça n'allait pas, c'est quand elle l'a mesuré et elle m'a dit je sais plus si c'était 4 ou 5 mm. Mais en gros, ça n'avait pas bougé depuis la semaine précédente. Et là, j'ai voulu faire de l'humour. Parce que, voilà. Ça aide. Dans ces moments-là. En disant, je sais pas, il a peut-être pas beaucoup grandi depuis la semaine dernière, mais c'est peut-être normal. Et puis là, je vois son visage se renfermer et qui me dit, non, c'est pas normal. Et là, j'ai le cœur qui bat à fond. Je sais que c'est fini, mais je peux pas l'admettre. En fait, c'est vraiment le choc. Je pense que quand on décrit les étapes du deuil, on s'y retrouve dans toutes. Tu vois, le choc, le déni, c'est pas possible, c'est pas vrai, c'est pas réel. Je fais un cauchemar. Je me réveillais et quand elle a confirmé qu'elle voyait pas d'activité cardiaque et que c'était donc une grossesse non évolutive. Ah, j'ai vraiment eu l'impression que tout s'effondrait, quoi. Tout. Enfin, j'avais l'impression de tout perdre. Enfin, je savais plus quoi faire. Je savais même plus si je devais pleurer ou pas, vu qu'elle était pas très, non plus, très sollicitante, très empathique. Et le seul moment où, j'ai commencé à réaliser, en fait, c'est qu'elle m'a donné tous les médicaments, elle m'a donné tous les protocoles, elle m'a fait son ordonnance et tout ça. Et il y a un moment où elle me dit ça va, et puis je lui dis je sais pas, je crois et je sais que c'est une femme en plus qui l'a vécu. Elle a vécu quelque chose d'assez difficile et on m'a dit quelque chose de similaire. Je sais pas exactement ce qu'elle a vécu, mais vraisemblablement elle connaît le deuil périnatal. En étant gynécologue, ça lui est pas inconnu non plus, mais elle l'a vécu physiquement, vraisemblablement. Et là, elle me regarde et elle me dit, oui, il faut d'abord encaisser. Le moment où je me connecte à cette phrase et je la regarde dans les yeux et j'ai juste une envie, c'est de m'effondrer. Je réalise vraiment une fois que je suis dehors et que j'appelle mon mari, je dois lui dire que la grossesse s'est arrêtée. C'est à ce moment-là que ça percute. C'était un mardi. Déjà, je suis pas retournée au travail, mais on ne m'avait pas donné d'arrêt de travail, donc j'ai dû aller chez le médecin ensuite pour en réclamer un. Voilà, j'aime bien, tu vois, la dissonance entre, enfin, le manque de logique. On te dit, c'est important d'être tranquille et de pas te donner un arrêt de travail, alors que potentiellement, je pourrais avoir un boulot de dingue et ne pas donc prendre le temps de faire une fausse couche parce que je peux pas m'arrêter. C'est déjà pas très normal.
On appelle communément fausse couche une grossesse qui s'arrête spontanément. Elle est considérée comme tardive au début du deuxième trimestre de grossesse ou précoce, voire très précoce, si elle intervient au premier. Pour Aurélie, il s'agit donc d'une fausse couche précoce. Mais selon les femmes, le protocole de prise en charge sera différent. Ainsi, si l'on a des saignements mais que l'embryon n'a pas encore été expulsé, il est possible d'attendre chez soi que l'utérus se vide complètement. Toutefois, on prescrit souvent un traitement médical pour provoquer des contractions et accélérer le processus. Un traitement qui est loin d'être anodin, car il peut provoquer des nausées ou de très fortes douleurs pelviennes. Dans d'autres cas, certaines femmes, en fonction par exemple de leurs antécédents médicaux ou en fonction du terme de la grossesse, se voient proposer un traitement qu'on va qualifier de chirurgical. En hospitalisation de jour, sous anesthésie souvent générale, l'intervention consiste à aspirer les tissus embryonnaires. C'est par exemple ce qu'a vécu Julie, qui a témoigné dans l'épisode 3 du podcast. Mais revenons-en à Aurélie. Le mardi soir, après l'annonce du diagnostic, elle rentre chez elle. Elle compte prendre son médicament le lendemain seulement, le mercredi.
En fait, moi, j'avais déjà des contractions et je saignais de plus en plus. Je contacte ma doula pour lui dire que c'est fini. Et elle me dit tout de suite, tu veux que je vienne demain? Et je lui dis, mais carrément. Et j'étais même désolée. Enfin, je lui dis, mais non, mais je peux pas te déranger pour ça. Et puis elle m'a répondu, je suis ta doula quoi qu'il en soit en fait. Même si ta grossesse s'arrête, je suis ta doula. Donc je la remercierai jamais assez parce que vraiment ça a été notre petite bulle d'oxygène le lendemain quoi. Il était prévu que je prenne les médicaments le mercredi et qu'elle soit là donc avec nous à ce moment-là. Et il se trouve que j'ai perdu l'embryon dans la soirée en fait. Mais encore une fois, avec la chance que j'avais de savoir ce que je pouvais être confrontée à cet épisode-là, de perdre l'embryon chez moi et que j'avais le droit de le récupérer si je le voulais pour faire un rituel, parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont à ce moment-là en état de choc face à ce qui leur arrive et le geste automatique qu'elles ont en fait, c'est de tirer la chasse d'eau en fait quand ça leur arrive aux toilettes par exemple ou d'appeler leur mari pour qu'il nettoie la douche parce que c'est là qu'elles l'ont perdu. J'ai eu ce choc et en même temps j'ai eu tout de suite le truc de « mais tu voulais le récupérer en fait, tu voulais en faire quelque chose, tu voulais un rituel ». Donc je me suis dit « allez c'est bon, j'en suis capable, je vais le faire ». Je me suis pas coupée de moi-même à ce moment-là en fait. Et je crois que ça c'est toute l'information quand même que j'ai reçue grâce à ma formation de doula qui m'a permis d'avoir ce petit déclic à ce moment-là de « non, je peux pas faire ça ». Je l'ai senti dans mon corps, ouais. Je l'ai senti vraiment sortir. Et ça m'a fait vraiment comme l'accouchement, quoi, le côté, le soulagement et en même temps que le choc quand quand le bébé sort et que tu dis ah ça y est c'est fini et en même temps t'as toutes les émotions qui remontent, enfin t'as cette espèce de moment figé où tu sais plus trop quelle émotion tu dois ressentir. Donc normalement l'accouchement ça débouche sur un oh là là mon bébé là c'est génial et là c'était plutôt ça y est c'est fini et en même temps c'est vraiment fini. Donc voilà.
Après une grossesse qui s'arrête, effectuer un rituel peut être une manière de dire au revoir à cet enfant que l'on attendait. Ce rituel peut avoir lieu plusieurs semaines ou plusieurs mois après la fausse couche. C'est par exemple une lettre que l'on écrit au bébé et que l'on brûle ensuite. C'est une lanterne aussi que l'on lance dans le ciel au milieu de la nuit. Aurélie, elle s'est sentie capable de procéder à ce rituel très rapidement. Elle s'est préparée à toutes les éventualités et a décidé de recueillir son embryon pour l'enterrer au milieu de la nature, dans un lieu qu'elle affectionne particulièrement. C'était sa manière à elle de dire au revoir. Car quand on fait une fausse couche, tout paraît parfois irréel. Le ventre n'était pas encore rond. Et le bébé, on n'a pas vraiment pu le voir, en fait, ou le tenir dans nos bras. Alors ce rituel, il offre la possibilité de se recueillir et de faire exister encore plus cette grossesse, qui, aussi courte fut-elle, a été une grossesse à part entière.
On m'a proposé de le mettre, par exemple, sous une plante ou un arbre. Alors, sauf que moi, j'avais un balcon, et c'était pas un lieu de vie. Chez moi, tout mourait. Donc non, je vais pas pouvoir faire ça, parce que si en plus l'arbre meurt, je vais trop mal le vivre. Donc j'ai été dans un endroit que j'aime beaucoup avec ma doula. Donc le lendemain, on est allés ensemble dans cet endroit, on s'est promenés, on a parlé. Et puis à un moment donné, je me suis dit, là, cet endroit-là, j'aime bien. Il y a de l'eau, il y a la terre, il y a des arbres. J'aime bien venir ici, les enfants y jouent sur les arbres et tout, c'est chouette. Et on l'a enterré là, du coup. De manière très sommaire, j'ai mis une petite bougie quand même. Je suis partie en laissant se consumer la bougie, voilà, avec l'intention que ça puisse m'aider aussi à tourner la page, à avancer. Pour moi, c'est une façon de matérialiser en effet la fin de la vie en fait, et de donner du sens à la fin de la vie. Ça me permet de me rappeler que la fin de la vie, c'est une renaissance pour d'une autre façon, pousser, ça permet aux arbres autour d'en profiter, à la terre d'en profiter, parce que le sang et les règles, c'est très riche. Donc, j'ai vraiment, amené cette intention de nourrir la terre ainsi.
Quelques jours plus tard, Aurélie a le sentiment qu'elle a vécu sa fausse couche de la manière la plus apaisée possible, parce qu'elle est doula, parce qu'elle avait de nombreuses informations, parce qu'elle a pu anticiper ses besoins et accepter ses émotions. Mais si elle n'avait pas eu accès à tout ça, comment aurait-elle fait? Comment aurait-elle vécu cette grossesse arrêtée? D'ailleurs, pourquoi ne lui a-t-on pas proposé un accompagnement, un soutien psychologique après l'annonce du diagnostic? Lors de son rendez-vous pour une échographie de contrôle post-fausse couche, elle décide de poser la question directement au gynécologue qui la reçoit.
Je savais qu'on pouvait beaucoup souffrir, j'en avais complètement conscience. Alors justement, j'avais des billes qui m'ont permis de le vivre au mieux, je mets des grands guillemets parce que c'est, enfin, vu comment c'est considéré dans la société, c'est pas le mieux, mais en tout cas, avec les billes que j'avais, les cartes que j'avais dans l'instant présent, je pense que c'est vraiment la meilleure façon pour moi que ça se soit passé. Je savais qu'il fallait que je m'écoute complètement. Donc, si j'allais avoir des émotions fortes, que je devais m'écouter. Si j'avais envie de faire un rituel, je savais que j'allais m'écouter. Et j'ai vraiment eu l'impression que j'avais tout mis en place pour me sentir hyper bien. Enfin, pour le vivre au mieux. J'étais bien accompagnée, j'ai quand même assez peu de remarques et quand j'en ai eu, je les ai bien recadrées tout de suite parce que j'étais tellement ancrée dans mes besoins et ma légitimité dans le deuil que j'ai pas eu de soucis particuliers. J'avais vécu les choses de la meilleure façon possible. Moi là, le gynéco qui m'a reçu en fait pour la vérification post-fausse couche, en fait, vérifier que tout a été bien, que l'utérus est bien propre. Je lui ai dit, je comprends pas que vous m'ayez pas donné les coordonnées d'une psychologue. Vous avez une psychologue rattachée à votre maternité. Je sais pourquoi vous m'avez pas parlé d'elle. Parce que, ben, c'est, franchement, ça peut être un outil intéressant. Et en fait, il m'a dit, ben non, parce que quand vous êtes, c'est normal qu'à ce moment-là vous soyez triste. Donc ça, c'est de la tristesse normale. On n'a pas besoin d'un psy. Par contre, si un mois plus tard ou deux mois plus tard, vous êtes encore malheureuse, là, par contre, c'est que c'est pas normal et il faut consulter. Le mec, il te dit au début, c'est normal que tu sois triste. Bon, ça encore, c'est bien, mais en gros, t'as besoin de personne. Hein, c'est pas de la tristesse qui doit être accompagnée, alors que fondamentalement, tu pourrais déjà faire appel à quelqu'un. Que un mois ou deux plus tard, si t'es triste encore, c'est pas normal. Bonjour la culpabilité si t'es triste, tu vois encore ? Parce que ça arrive, hein. C'est vraiment 2 mois, c'est pas suffisant pour faire le deuil, même d'une grossesse qui s'est arrêtée précocement. Et déjà, il va y avoir tout ce qui est date anniversaire qui va te revenir en pleine tronche la plupart du temps. Ça marche quasiment à tous les coups. Donc tu peux pas donner cette information là à une femme, tu vois, c'est pas possible. 1 ou 2 mois, c'est pas suffisant.
Même si l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, estime que le deuil périnatal fait suite à une grossesse qui s'interrompt à partir de 22 semaines d'aménorrhée, écouter les femmes qui ont vécu une fausse couche précoce permet de se rendre compte d'une chose. Non seulement la tristesse ne se mesure pas en semaines d'aménorrhée, mais l'angoisse de la grossesse d'après ne se mesure pas non plus en fonction de la longueur de la grossesse précédente. Aurélie était enceinte d'un mois et demi, 2 mois. Très vite, elle retombe enceinte. Mais pour sa 4e grossesse, elle se rend compte très rapidement qu'elle ne pourra jamais être sereine et vivre les choses de manière complètement apaisée.
La fausse couche, justement, précoce, donc on va dire en dessous de 3 mois, c'est tellement mal connu, mal reconnu, tellement mal accompagné qu'au final, les femmes se donnent même pas parfois l'opportunité de se dire « je vais mal ». C'est ça qui est moche, c'est ça qui est pas juste. Et en effet, ben, quand tu retombes enceinte après une fausse couche, ben, tu sais que ça peut s'arrêter, t'as perdu toute ton innocence. C'est l'insouciance de la grossesse, de mes 2 premières grossesses, elle s'est envolée, quoi. J'avais peur à chaque instant. J'avais l'impression que les journées s'étiraient, en fait, que je voyais défiler les heures comme si c'était des années. Ça me paraissait hyper long. Et pourtant, j'avais la conviction que ça pouvait bien se passer. J'avais même rêvé que mon bébé allait naître et qu'il me regardait droit dans les yeux en me disant, ça va, tu vois, je vais bien. Donc je sentais que tout ça allait dans un sens positif, mais c'était malgré tout, c'est ma doula n'arrêtait pas de me dire chaque jour est une victoire et j'avais vraiment cette impression en effet de souffler juste le soir quand j'allais me coucher, de me réveiller chaque matin en disant allez une nouvelle journée qui va passer. C'était hyper lent. Ma sage-femme elle a un appareil d'échographie, elle m'avait proposé de refaire des échographies, donc je me souviens qu'entre la première et la deuxième écho, j'ai demandé une échographie supplémentaire pour voir au moins s'il était vivant, quoi. Et j'arrivais plus à communiquer avec mon bébé, je le sentais pas, j'avais pas l'impression de le sentir en moi, et en même temps, je pense que ce sont des mécanismes de protection, c'est que, on essaye de se protéger de ce fameux amour qu'on pourrait ressentir, tu vois, pour un enfant, mais, alors que, il est bien là, l'amour, mais on pense que d'avoir peur, inconsciemment, avoir peur, c'est se couper, en fait, de ça. C'est resté dans la grossesse cheminante, c'est resté, et je me souviens qu'à 8 mois, j'ai ressenti ce truc de, ça y est.
Suite à cette grossesse, Aurélie donne naissance à un 3e petit garçon. Les mois passent et son esprit est rempli par la présence de ce nouveau-né. Mais avec le recul, elle se rend compte que tout n'est pas si simple. Elle pense encore beaucoup à sa troisième grossesse. Un sentiment d'inachevé, peut-être, la saisit de temps en temps. À cette époque, elle intègre des groupes de femmes sur Facebook que l'on écrit au bébé et se rend compte d'une chose. En fait, une fausse couche, ça n'a rien, mais vraiment rien d'anodin. On en parle peu, mais ça ne veut pas dire que ça ne laisse aucune trace, bien au contraire. La douleur, en fait, elle est d'une certaine manière proportionnelle à l'invisibilisation de ce phénomène très courant. Tellement courant qu'on le fait passer pour anodin, mineur, accessoire, pour un événement qui ne nécessiterait aucun soutien et aucun accompagnement spécifique. Alors petit à petit, Aurélie décide de prendre le problème à bras le corps. En tant que maman qui a vécu une fausse couche, en tant que doula, elle lance un groupe de soutien sur Facebook pour les femmes qui ont vécu un arrêt de grossesse et elle se rend compte qu'elles sont nombreuses, celles qui subissent ce tabou autour des fausses couches. Des fausses couches, qui sont banales d'un point de vue statistique, ça concernerait une femme sur quatre, une femme sur cinq, mais la prise de parole, elle est loin de s'être banalisée.
J'arrêtais pas de me dire, il faut que je fasse quelque chose parce que c'est pas possible. Si moi déjà je l'ai mal vécu en ayant plein de billes, d'informations, ben ça veut dire qu'il y a plein de femmes qui n'en ont pas d'informations. Là. Puis ça c'est vraiment tabou. Enfin, je veux dire, tu sais que ça arrive, mais personne t'en parle. C'est souvent quand tu le vis que tu apprends que dans ta famille il y en a eu aussi. T'es toute seule avec ça quand même la plupart du temps. Via ma page Facebook et via le groupe de soutien que j'avais mis en place, que j'ai réalisé que ça me faisait vraiment ça faisait sens, en fait, pour moi, d'avoir vécu une fausse couche si maintenant je pouvais les accompagner. Ça a fait sens, en fait. Je me dis, ben voilà, j'ai vécu ça, mais aujourd'hui, je peux accompagner ces femmes-là. Je peux les rassurer, leur donner des outils pour qu'elles se sentent mieux.
Plus récemment, Aurélie est retombée enceinte, en plein confinement. Une grossesse complètement imprévue, parce qu'on ne peut pas toujours tout contrôler. La poursuivre ou non ? Alors que la décision était prise, mais que ce n'était finalement pas un choix du cœur, selon ses propres mots, Aurélie a finalement appris, au cours des examens préalables à l'IVG, que cette nouvelle grossesse n'était pas évolutive. Comme si la nature avait fini par approuver la décision que son mari et elle avaient prise ensemble. Je ne vais pas m'aventurer sur cette pente glissante qui consisterait à comparer une fausse couche et une IVG, mais je vais juste me permettre de mentionner un élément qui les rapproche. Cet élément, ce sont les chiffres. En France, les médias relaient généralement l'idée qu'il y a 200 000 fausses couches par an. Eh bien, pour les IVG, on est en fait sur les mêmes proportions. On estime qu'il y a eu entre 197 000 et 217 000 avortements par an depuis le début des années 2010, selon l'INED. Ces chiffres, vous le voyez, ils sont loin d'être anecdotiques. Et pourtant, dans les deux cas, qu'il s'agisse de fausses couches ou d'IVG, un voile est jeté sur ces expériences féminines. Ce tabou, Aurélie, qui a vécu les deux, s'en est aperçu. Mais qui sont ces femmes qui ont recours à l'IVG ? Les entend-on partager leur expérience ? Très peu, finalement. Dans son livre sorti en février 2021, intitulé « Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu », Sandra Visavona explique avoir voulu donner la parole à celles qui ont traversé l'épreuve de l'IVG. Mais bien vite, elle explique s'être heurtée à une difficulté. « La loi nous autorise à avorter, la société nous empêche d'en parler ». Estime-t-elle, précisant par ailleurs que selon sa propre expérience de femme, elle est, je cite, « la preuve qu'un avortement peut provoquer l'indifférence ou une déflagration ». Aurélie, quant à elle, a eu du mal psychologiquement à affronter cette IVG. Finalement, apprendre que la grossesse était vouée à se terminer en fausse couche lui a enlevé un poids énorme, mais c'est quand même un déchirement qu'elle a vécu. C'est à nouveau chez elle qu'elle a traversé cette grossesse arrêtée, cette grossesse interrompue. En présence de son mari, d'une amie et d'une doula qui lui ont apporté de la douceur et du réconfort. Et oui, une doula peut être amenée à intervenir n'importe quand, que la grossesse soit désirée ou non, qu'elle aille jusqu'à son terme ou non.
Même si on est féministe, pro-IVG, même si pour nous, la femme, elle sait son corps, elle sait ce qui est bon pour elle et ce qu'elle doit faire, ben, sociétalement, il y a un tel poids de culpabilité, de culpabilisation dessus. Ça engendre tellement de choses derrière qui sont pas visibles dans un premier temps, je pense, mais qui peuvent émerger même si on est très très sûr de soi. Donc là, j'ai fait venir une doula, une amie, elles m'ont fait des massages, elles m'ont fait des soins énergétiques, mon mari était avec moi pour qu'on puisse vraiment vivre tout le processus ensemble. Et j'ai vraiment senti que leur place était importante parce que je pense qu'en face à face, avec mon mari, on aurait été un peu, j'aurais vite tourné dans l'angoisse quelque part que il y a des choses qui fonctionnent pas. Je pense que j'aurais vite été prise par le mental parce que c'est ma problématique. J'ai du mal à communiquer avec lui parfois, alors qu'avec des femmes, je me lâche tout de suite, en fait. Et entre femmes, j'en avais besoin, moi, personnellement. Et on en a parlé à nos enfants, de la même façon qu'on a parlé de la fausse couche. On a expliqué qu'il y a des grossesses qui commencent et qu'on ne désire pas forcément, qu'ils n'arrivent pas au bon moment. Et par contre, moi, c'est tout le côté, justement, postpartum derrière, là, que je sens vraiment très, très fort. Ça a été 2-3 semaines avec un ventre qui ne désenfle pas, un bon mois, tu vois, avec des formes, un corps complètement désordonné, qui n'a plus de repères, un corps que tu reconnais pas. J'ai passé un bon mois, je pense, à essayer de comprendre tout ce qui m'arrivait. Et après, par exemple, j'ai eu les cheveux qui sont tombés. Je me suis dit, voilà. OK, donc là aussi... Et de voir des grossesses qui auraient dû être concomitantes, c'est pas évident de voir ces grossesses-là continuer. Même si j'ai pas ce sentiment de jalousie et tout, c'est différent encore de la fausse couche, mais voilà, je trouve que ça devrait vraiment faire partie d'être accompagnée avec beaucoup de douceur pour ces femmes-là. Et ouais, vraiment, notamment le jour où j'ai pris ces médicaments et que j'ai eu mes amis qui étaient autour de moi, qui étaient là pour m'entourer. J'ai trouvé ça super, quoi, de vivre ça dans ces conditions-là.
Aujourd'hui, Aurélie exerce son métier de doula à plein temps et elle a décidé de se spécialiser dans l'accompagnement dans le deuil périnatal et lors des grossesses qui font suite à une fausse couche. Pour elle, c'est important d'épauler au mieux les femmes, de leur donner des clés en fonction de leurs besoins, de les envelopper de douceur aussi lorsque leur parcours lié à la maternité n'a pas été simple, et de les informer vraiment sur ce qu'est une grossesse, sans les effrayer, mais en disant la vérité, rien que la vérité.
Des fois, je me souviens d'avoir écrit des articles sur le fait de prévenir les femmes avant qu'elles tombent enceintes ou au début de leur grossesse des fausses couches. Je suis persuadée que j'aurais eu du beaucoup de mal à l'entendre, mais je pense qu'une information qui serait disponible ou autre, en général, c'est des articles qui fonctionnent très bien. Enfin, les femmes sont très réceptives à cette idée-là parce que déjà, toutes celles qui ont vécu se disent « j'aurais voulu savoir avant à quoi j'allais être exposée, ce que j'allais subir, vivre ». Et au final, pourquoi pas même en parler à des femmes qui n'auraient jamais fait de fausse couche, mais qui pourraient avoir une information disponible, par exemple chez leur gynécologue, un petit flyer, quelque chose qui puisse aider, quoi, à donner des billes, à donner des repères, en fait. Parce que c'est un peu l'image que j'ai. On croit qu'on tombe dans le vide, mais en fait, on peut trouver des parois, quoi, et on se raccroche à ça et savoir que tout simplement, je vais vivre des émotions difficiles, c'est, quelque part, de le savoir à l'avance. On revient sur le contrôle. On contrôle un peu mieux la situation. Moi, en tout cas, ce qui a été le plus douloureux, c'était cette perte de contrôle total, cette impression que tu es complètement impuissante, que tu peux rien faire. Et se rattacher à des choses comme je sais un petit peu comment je vais évoluer psychologiquement, je sais ce qui peut m'arriver physiquement. Parler du postpartum, parler de la grossesse d'après qui peut être difficile, mais sans en faire une règle figée, mais juste une information éclairée. Et en restant ouverte, mais en donnant quand même... toutes les couleurs de la vie d'une femme qui veut devenir maman. Juste leur donner de l'information éclairée, quoi.
Et c'est sur cette image colorée que nous allons nous quitter. Je te remercie, Aurélie, de t'être confiée à moi, à nous, à propos de tes grossesses arrêtées. Comme tu nous l'as si bien expliqué, il n'y a finalement pas de petit deuil. Nous traversons toutes des grossesses différentes, mais il n'en reste pas moins que les émotions peuvent être vives et qu'il ne faut pas hésiter à demander de l'aide et à sensibiliser si on s'en sent capable. En cette semaine de mars 2021, 3 jours après cette journée internationale des droits des femmes, un grand merci à toi de nous avoir parlé de ta fausse couche, mais aussi de ton IVG, sans filtre et sans tabou. Vous pouvez retrouver Aurélie sur son site internet Aurélie Bianchi, BIANCHI.com. Dans cet épisode, je vous ai mentionné le livre de Sandra Visavona, Interruption, l'avortement par celles qui l'ont vécu. Ce livre est paru en février 2021 aux éditions Stock. Et si vous avez à cœur de soutenir Au Revoir Podcast et de lui offrir une plus grande visibilité, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire et à lui attribuer 5 étoiles sur Apple Podcasts. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Et pour terminer ce 14e épisode, je laisse le mot de la fin à Aurélie, qui a quelque chose à vous dire si vous êtes en plein dans votre grossesse d'après.
En effet, cette peur, c'est vraiment une barrière de protection. Derrière, c'est de l'amour. C'est justement parce qu'il y a de l'amour qu'on a peur. Et souvent, quand je leur dis « Mais qu'est-ce qui va se passer là ?» si voilà, alors, je suis parfois un peu rude, mais imagine, la grossesse s'arrête quand même. Tu penses que tu seras moins effondrée parce que t'as pas montré de l'amour à ton bébé ? Non, mais bien sûr que non. À chaque fois, on m'a dit « Ben non, j'en ai fait, je serais triste quand même, en fait. » Bah oui. Donc, si on part de ce principe-là, on y va tout doucement, hein, bien sûr. On est pas... Chacune va à son rythme. Et ça n'empêche pas les peurs de revenir, mais c'est OK aussi. Tout en laissant beaucoup de place à ces émotions-là qui sont totalement légitimes, encore une fois. C'est vraiment hyper important que ces émotions existent et qu'elles soient reconnues. Et c'est super dur à intégrer ça, cette variable de, en fait, ça peut basculer du jour au lendemain et je dois l'accepter. Mais ouvrir cette porte c'est possible et en fait c'est beau que tu l'aimes déjà. Tu peux aussi voir cette porte là et on peut y aller tout doucement, on peut vraiment y aller en douceur. C'est OK en fait.